Prenons nos Bibles ensemble dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 13. Nous allons lire les versets 20 à 21. Je vais demander à tout le monde, dans l'assistance, de daigner se tenir debout. Hébreux 13, versets 20 à 21. Nous allons ensemble. 1, 2, 3. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Psaume 100, verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Éternel des armées. Je remercie un moment, Éternel, au-devant de toi. Je te loue pour toute personne qui m'écoute en ce moment, que ce soit ici, que ce soit ailleurs. Je prie qu'au son de ma voix se produise dans chaque cœur la capacité par l'esprit d'entendre la parole et de la comprendre au travers de la révélation qui est accordée gracieusement à ceux qui ont la foi. Que ta parole soit davantage accompagnée de vie, qu'elle apporte la lumière, qu'elle brise les chaînes de la captivité, qu'elle renouvelle notre intelligence, qu'elle nous communique la sagesse, qu'elle nous donne l'intelligence, ô Dieu, afin que plus jamais ton nom par nous et en nous soit élevé. Père, je veux que chacun de mes mots traduise avec la plus grande fidélité la pensée que tu m'as communiquée. Béni sois-tu. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Et que quelqu'un dise Amen trois fois. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir dans sa magnifique présence. Alors, voyez, nous avons une merveilleuse formation sur 777. Le but était de préparer l'Église à la seconde venue de Christ et de transformer chaque enfant de Dieu en véritable ouvrier. Et que par nos vies, le règne de Dieu s'établisse sur la terre des hommes. Bien aimé, il est écrit dans Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors, j'insiste sur le point que Dieu a aimé le monde. Dieu n'a pas aimé l'Église, il a aimé le monde. Il n'a pas aimé les chrétiens, il a aimé les hommes. D'accord? Donc, son amour s'est déployé au-delà de nos dénominations, au-delà de nos considérations, au-delà de nos races et de nos convictions. Il a aimé les hommes de la terre. Donc, l'amour de Dieu, vous voyez, concerne tous les hommes de la terre. Maintenant, quand on regarde au monde et à, voyez, aux statistiques que nous avons des hommes de la terre, des convictions religieuses que les hommes ont sur la terre, nous nous rendons compte que nous avons 32% de personnes seulement qui sont chrétiennes. 23% de musulmans, 16% sans religion, 15% d'hindouistes, 7% de bouddhistes, 0,2% de juifs, 6% qui pratiquent des religions traditionnelles, 1% qui pratiquent d'autres religions qui ne sont pas explicitement citées. Et je voudrais attirer votre attention sur un point. Les 32% des chrétiens ne veulent aucunement dire que les 32% sont des enfants de Dieu. Parce qu'on peut être chrétien sans être enfant de Dieu. D'accord? Les chrétiens en question sont des personnes qui s'identifient à la religion chrétienne. Eh bien, Jésus n'est pas venu sur la terre pour une autre religion. Il est venu sur la terre pour rétablir la communion entre les hommes et Dieu, leur créateur. Vous voyez? Donc, il est venu pour la réconciliation. Donc, dans les 32%, nous avons moins. J'ai dit bien moins de 25%, je suis même excessivement gentil, qui sont nés de nouveau. D'accord? Donc, vous voyez, si on regarde sur tout, dans le monde entier, tous les hommes, environ 7 milliards, on a moins de 10% de ces 7 milliards qui ont accepté Jésus dans leur vie comme étant leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Et ça, justement, ça devra nous interpeller. Mais au lieu de nous interpeller, nous semblons être tombés dans une forme de laxisme. Le diable nous a endormis, nous a aveuglés, et les gens de l'église se contentent simplement de chanter, de danser, d'avoir été bénis, alléluia, d'avoir écouté un beau message, et ils rentrent chez eux. Bien aimé, ce n'est pas la raison pour laquelle nous sommes sauvés. La Bible dit, c'est Dieu qui nous a fait, et nous sommes les brebis de son pâturage. Nous voyez, nous appartenons au pâturage de Dieu, le troupeau de son pâturage. Maintenant, suivez-moi bien. Dans le pâturage du Seigneur, il y a plusieurs types d'animaux. Et la Bible scinde principalement en deux. Premièrement, les brebis. Deuxièmement, les boucs. Dans le thème de mon message, c'est brebis ou bouc. Est-ce que je suis une brebis? Est-ce que je suis un bouc? Vous voyez, Jésus est le grand pasteur de nos âmes. Il nous conduit. C'est lui qui est le berger, n'est-ce pas, du troupeau. Mais toutes les brebis, toutes les bêtes du troupeau ne rendent pas la tâche facile à notre Jésus. N'oubliez pas que quand Jésus mourait à la croix, quand il tendait ses mains, il voyait le monde entier sauvé au travers de son sang. Il n'a pas versé son sang pour 10% de personnes, il a versé son sang pour 100% des humains. D'accord? C'est pour ça que lors de son départ, la plus grande recommandation qu'il a faite à l'église, il dit « Allez par tout le monde ». Il dit quoi? « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Dans la grande commission, numéro 1, la responsabilité, c'est de gagner les âmes. D'accord? Gagner les âmes. Prêcher la bonne nouvelle. Et il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. En quoi doivent-ils croire? À la bonne nouvelle qui est annoncée. D'accord? Par qui? Par chaque enfant de Dieu de nouveau. La responsabilité du salut du monde incombe à chaque personne née de nouveau qui appartient au royaume. Ce n'est pas une responsabilité pastorale, c'est une responsabilité du corps de Christ. Donc, Marc 16 nous montre la sous-commission qui est celle du salut des âmes. Maintenant, il a ajouté dans Matthieu 28, verset 18 à 20, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire amener toutes les ethnos, les ennemis de la terre, à être des suiveurs disciplinés de Jésus. Que mon enseignement soit suivi par les hommes de toute race, de tout peuple, chinois, juif, grec, africain, européen, américain, tout le monde doit s'aligner à mon enseignement. » D'accord? C'est ce qu'il a dit. Fait de toutes les nations, mes disciples. D'accord? Mes disciples. Donc, il y a une différence entre celui qui est sauvé et celui qui est converti. Oui, le salut, nous l'avons gracieusement. Quand nous confessons le Seigneur, nous reconnaissons qu'il est mort pour nous, nous sommes sauvés, nous sommes translatés, transportés des ténèbres vers la lumière. Maintenant, la marche dans la lumière requiert un engagement personnel et un sacrifice individuel de chaque croyant. Devenir un disciple est un processus, alors que le salut, il est paf, dans un instant, on est sauvé. Vous voyez? Et ça demande à chacun d'entre nous de s'investir. C'est pour ça que l'apôtre Paul parle de travailler à son salut avec crainte et tremblement. Vous voyez? Donc c'est très important de comprendre ces choses. Alors, notre question devra être, quelle est notre attitude dans le troupeau? Est-ce que nous faisons plaisir aux bergers ou nous sommes en train de causer des soucis énormes à notre grand maître, à notre grand berger, le grand berger des brebis? Certains d'entre vous diront, je n'ai pas vu le grand berger, donc heureusement, je ne cause aucun problème au grand berger. OK? Mais le grand berger a établi des petits bergers, comme nous autres, qui sont l'extension, d'accord, de son leadership, de son œuvre. Aucune brebis ne m'appartient, toutes les brebis appartiennent au Seigneur, mais j'ai la responsabilité sur l'église locale de veiller sur une portion des brebis que le grand berger a confiée. Regardez ce que la Bible dit, parlant des boucs et des brebis. Ézéchiel 34, verset 17. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vous voyez, et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre les brebis et brebis, entre les béliers et boucs. Vous voyez, donc Dieu met une différence entre les brebis, d'accord, et les boucs. Donc il y a des brebis et il y a les boucs. Il dit, je jugerai entre les deux. Zacharie 10, verset 3, il dit, ma colère s'est enflammée contre les pasteurs. Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs. Et il continue en disant, et je châtierai les boucs. Ça veut dire que parmi les pasteurs, il y a des pasteurs boucs. Et il y a des fidèles boucs. Je châtierai les boucs. Car l'Éternel des armées, voyez, visite son troupeau. Voyez, voyez, à la maison de Juda. Et il fera comme son cheval de gloire dans la bataille. Matthieu 25. Versets 32 à 33, toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres. Donc il y aura une séparation. Dis à ton voisin, le Seigneur va séparer. Voyez, dans le jugement, nous annonce une séparation. Il mettra une séparation. Mais comment est-ce qu'il va faire? Il dit, il séparera les uns d'avec les autres. Donc il y a les uns et il y a les autres. Ça, c'est une bonne nouvelle. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, il mettra les brebis à sa droite et il mettra les boucs à sa gauche. Donc c'est un jugement qui aura lieu, n'est-ce pas, dans le troupeau. C'est un jugement qui va s'accomplir dans la maison de Dieu. D'accord? Donc il y a un premier jugement, celui de la séparation entre les hommes qui ont cru et ceux qui n'ont pas cru. On sait tout de suite que celui qui n'a pas accepté Jésus, il va en enfer. Ça c'est clair. Mais maintenant, dans la maison de Dieu, il y a un jugement. On n'aura pas tous la même récompense, on n'aura pas tous les mêmes couronnes, on n'ira pas tous au même endroit, on ne sera pas installés tous dans la même gloire. Il y aura des récompenses diverses. À d'autres, Jésus lui-même sortira, s'élèvera de son trône. Quand on sera en train d'arriver au ciel, lui-même viendra à la porte pour dire, bienvenue, juste et fidèle serviteur. J'étais avec toi tous les jours. Quand je t'entendais parler au temple de la foi, j'étais heureux. Viens dans le repos éternel. Mais à d'autres, tu ne trouveras pas utile de s'élever lui-même. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez donc, nous devons être conscients du fait qu'il y aura un jugement. Donc s'il y a un jugement, c'est que Dieu mettra en exergue, il regardera notre comportement, notre investissement, notre caractère dans le royaume, ce que nous aurons fait en tant qu'enfants de Dieu. Et si nous y pensons, nous devons travailler avec crainte. Vous voyez, avec crainte. Maintenant, qu'est-ce que c'est une brebis? Vous voyez, on dit ma brebis, brebis, qu'est-ce que c'est une brebis? Quand dit-on qu'un fidèle est une brebis? Dans l'église, il y a dans le troupeau les brebis. Il y a des boucs et il y a des loups qui ont mis les vêtements de brebis. Un jour, je prêchais. Vous voyez, il y a des gens qui viennent à l'église et ils ne savent pas, ils se sont auto-proclamés eux-mêmes pasteurs et ils donnent des prophéties pour satisfaire les inclinaisons ventriques, égarer les gens. Oui. Donc, vous savez, on a des gens comme ça à l'église. Quand ils voient qu'il y a une communauté, ils passent, ils voient des voitures dehors, ils commencent à rêver comment est-ce qu'ils vont soutirer l'argent des poches des filles. Oui, il y a des gens comme ça. Donc dans l'église, pour être un pasteur, on doit connaître justement à qui on a affaire. Premièrement, c'est les brebis. Oui, la brebis, c'est la femelle adulte, c'est une femelle adulte de l'espèce bovine, d'accord? Et elle est élevée pour sa reproduction. Donc, elle est élevée pour sa reproduction. Donc, la brebis est caractérisée par le fait qu'elle se reproduit. Elle n'est pas stérile. Elle se reproduit. Et ensuite, elle est aussi élevée, d'accord, parce qu'elle va produire du lait. Non seulement elle se reproduit, mais elle produit du lait. Voyez, le lait se tient aussi pour la parole de Dieu. Elle produit du lait. Elle génère du lait. Certains d'entre vous ont déjà commencé à comprendre qui est la brebis. D'accord? Vous voyez, la brebis apporte du lait. D'accord? Mais le bouc est le mâle, vous voyez, n'est-ce pas? Le bouc est le mâle de la chèvre. Il a des cornes puissantes, une langue barbe et une odeur forte. Cornes puissantes, langue barbe, odeur forte. Si vous êtes berger et que vous avez dans votre troupeau des boucs, l'odeur du bouc va même infecter vos vêtements. Vous savez, tellement son odeur est forte que quand vous côtoyez le bouc, l'odeur reste sur vous. Vous voyez? Alors que le mâle de la brebis, s'appelle le bélier. Et le jeune d'une brebis s'appelle l'agneau. Donc, quand on dit l'agneau qui ôte le péché du monde, ça veut dire que Jésus lui-même était dans la lignée des brebis. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si nous devons ressembler à Jésus, nous sommes condamnés à être des brebis du troupeau. Maintenant, quelles sont les caractéristiques, n'est-ce pas, d'un bouc, un fidèle bouc? Comment est-ce que vous remarquez que vous avez affaire à un fidèle bouc? Premièrement, il est difficile à conduire. Quand vous avez dans votre troupeau des boucs et que vous vous mettez devant pour demander au troupeau de suivre, le bouc a tendance toujours à aller prendre son chemin. Il ne veut pas suivre le berger. Vous voyez? Vous avez déjà entendu des gens qui vous disent, dans tous les cas, on dit qu'il y a jeûne de prière, moi j'ai déjà fait mon jeûne seul. Ça, c'est des réactions boucaniques. Vous voyez? J'ai jeûné à part. Le Saint-Esprit m'a déjà conduit dans mon coin. Vous voyez? Ça, c'est le bouc. D'accord? Donc, ce sont des gens qui sont dans le troupeau, mais par qui le diable passe pour créer des problèmes au troupeau. Et c'est exactement ce que Pierre a failli devenir. Et Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce qu'en ce moment précis, il y a une réaction de bouc. Vous voyez? Vous comprenez? Donc, on peut être dans le troupeau et être instrumentalisé par la puissance de l'enfer. Il est déloyal, le bouc est déloyal. Il n'en fait qu'à sa tête. Même quand vous avez dans un enclos et que le bouc est là, il faut que l'enclos soit solide parce que lui, il va toujours aller vers l'enclos pour essayer de donner le coup sur la barrière, casser la barrière. C'est ça le bouc. Quand ils sont dans le troupeau, dans une église, ils aiment la division. Ça, ce sont les boucs. Casser l'enclos, c'est son tempérament. Il tient trop compte de son moi. Même quand il est avec le berger, à un certain moment, s'il n'est pas content, il vient avec ses cornes comme ça vers le berger. Donc le berger lui-même doit faire attention parce qu'il peut en même temps envoyer ses cornes. Et vous voyez, le symbole de cornes, c'est pour sa puissance. C'est son orgueil, sa position, son argent. Vous voyez, il y a vu des chrétiens qui sont toujours comme ça en train de vous dire, tu sais qui je suis? Ce sont les cornes du bouc. Amen. Voilà. Et souvent, ils utilisent les cornes pour dire au pasteur quel message prêcher. La semaine prochaine, tu prêches plus sur la sanctification. Tu prêches sur le pardon. Voilà. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Très bien. Donc il n'est pas assidu. Bon, ça dit, il ne suit pas, il suit son chemin, pas assidu aux réunions. D'accord? Il mène une vie pleinement charnelle. Ça dit, sa vie est charnelle. Il vit comme il veut. Le pasteur n'a pas... Dieu même, c'est pas... Dieu n'a pas à lui donner des ordres là-dessus. C'est sa vie. Dieu, tu m'as sauvé, c'est parfait, mais laisse-moi vivre comme je veux. Ça, c'est le bouc. D'accord? Il compte sur ses propres forces. OK? Il a sauvé, mais il ne travaille pas pour son salut. Il ne travaille pas pour son salut. Et il est chaud de travailler pour son salut. Tout, le jeûne, tout ça, ça ne le concerne pas. Il ne travaille pas pour son salut. Il est assez suffisant. Il compte sur sa puissance. D'accord? Les autres jeûnent et prient parce que lui, il pense qu'il jeûne et prie simplement pour avoir des cornes féroces. Et lui, il les a déjà. Donc, il n'a plus besoin de Dieu. C'est ça le bouc. D'accord? Mais, voyez, vous avez des gens qui sont dans le ministère, mais qui font un ministère de berger bouc. Et ça, c'est terrible. Vous avez déjà vu des gens, ils étaient puissants dans le monde, et une fois qu'ils sont sauvés, ils n'ont jamais été disciples. Ils sont venus à l'église, un mois après, vous avez entendu qu'on les a ordonnés. Trois mois après, eux-mêmes, ils étaient devenus le chef de l'église. Pourquoi? Parce que c'est la puissance du bouc. Ils n'ont jamais été convertis, vraiment. Ils ont été sauvés, mais pas convertis. Donc, ils veulent amener le même système du monde dans l'église. Et ils deviennent des bergers boucs qui ne connaissent pas la soumission. Et ils aiment être honorés. Ce genre de bergers aiment qu'on leur donne la gloire à eux. Ils ne servent pas. Quand la louange, l'adoration commence, ils ne sont pas là. Dès que l'adoration est en plein milieu, quand il entre là, il dit, envoyez le protocole, arrêtez tout. Le berger arrive et puis on arrête tout, on acclame. Bienvenue papa berger, on acclame. Ça c'est le bouc. Est-ce que vous, quand vous voyez ça quelque part, c'est le bouc. D'accord? Son anniversaire doit être célébré par toute l'église. Tout ce qui le concerne. Son chat est né le 27 avril, on fête à l'église. Parce que le bouc, il y a le mois du bouc qui est toujours mis en exergue. C'est ça le ministère de bouc. Vous voyez, il est tellement présent qu'on ne pense plus à Jésus. Même souvent vous dites, oh, j'étais là, Jésus m'a fait du bien. Il est fâché. Pourquoi c'est Jésus? C'est moi, c'est pas Jésus. Ça, c'est le bouc. Vous comprenez? C'est le bouc. Et on a beaucoup de boucs dans le ministère aujourd'hui. Beaucoup de bergers boucs. Il dit, je jugerai le bouc. Parce qu'il n'y a pas de docilité. Vous devez comprendre une chose. Vous ne pouvez pas être leader sans être vous-même soumis au leadership de l'esprit. C'est ça. Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs et je châtirai le bouc. Oh, que Dieu t'aide à sortir de, n'est-ce pas, de la caractéristique de bouc et à devenir une brebis du Seigneur. Une brebis. Vous voyez le piège de l'appel de Dieu. Je parle et mon cœur saigne. Le piège de cet appel, bien-aimé, je vais vous dire une chose. Dieu t'a appelé, il a un plan pour toi. Il n'y a aucun plan dans le royaume des cieux qui ne soit pas glorieux. J'ai dit, il n'y a aucun plan. J'ai dit, aucun. Au départ, quand je prêchais ce message, les gens étaient choqués, mais ils ne comprenaient pas. J'ai dit, Dieu ne peut pas avoir appelé quelqu'un à la misère. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Et il n'y a personne à qui Dieu a réservé un standard de vie. Non, non, ce n'est pas possible. Il dit, il nous appelle à être la tête. Pour tout le monde. Quelqu'un m'a demandé, mais tu crois que Dieu peut rendre tout le monde riche? J'ai dit, mais ça, c'est un petit problème pour Dieu. Il est l'auteur de la richesse. La richesse lui appartient. Et il dit à Abraham, toutes les nations de la terre, les familles, seront bénies après toi. Donc quand il le dit, il a déjà mis en réserve une économie stratégique pour combler chaque famille. Donc je n'ai pas confiance à l'FMI, à la Banque mondiale, à la BAD. Ça, c'est des institutions humaines. Vous comprenez, je n'ai pas confiance à leur économie. J'ai confiance à l'économie du ciel. Certains d'entre nous, on trouvera de l'or sous nos maisons, du pétrole sous nos maisons. Pourquoi? Parce que le ciel a réservé une provision pour chacun de ses enfants. Et ça ne respectera pas toujours le processus habituel. Ton élévation ne va pas respecter le processus habituel. Toutes les personnes que tu connais aujourd'hui ne sont pas toutes celles que tu vas connaître. Je te garantis. Je te réserve des surprises. Est-ce que vous me comprenez? Je te réserve des surprises. J'ai dit, Dieu te réserve des surprises. Tu le verras. Donc, la Bible dit dans 1 Pierre 5, verset 6 à 7, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Donc, le problème, c'est qu'on doit s'humilier sous sa puissante main. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Les gens sont trop pressés pour être élevés. Personne ne peut être élevé si au départ, il n'est pas mort en lui-même. L'élévation divine est précédée par la mort en soi. C'est pour ça que les gens ont des ministères qui n'ont pas d'impact. Tu suis quelqu'un 3 minutes, tu tombes dans le sommeil. La tête est bourrée, mais le cœur est vide. Il n'y a pas de vie derrière. Pourquoi? La personne n'a pas eu le temps d'être grisée par Dieu. Vous voyez? Et puis tout de suite, on combat le ministère. Et ça, vous voulez que je vous dise la vérité? C'est le plus grand piège qu'on a en Côte d'Ivoire. On a trop de petits charlatans. Trop de petits charlatans. Dans le ministère, trop de petits charlatans. Et comme le peuple en lui-même aime les friandises, n'aime pas la profondeur, aime les choses légères. On danse à l'église, on danse à la boîte de nuit sans problème. Vous voyez, on écoute la musique à l'église, la louange, et on écoute le jazz, le reggae, le dombolo dans sa voiture, sans problème. Il n'y a pas de différence. Les gens, ils vont tomber ici et là, chaque fois et donc, les bergers sont là, satisfaisant les plaisirs charnels. Et préparant un peuple qui ira dans la perdition. Ça, c'est une désolation. On doit s'arrêter et dire, on doit être sérieux. On ne sert pas Dieu pour avoir l'argent. On ne sert pas Dieu pour avoir une position. Dieu se sert de nous pour atteindre ses objectifs.
Vous en êtes. Oh, prophétie. Dieu me montre. Tu seras directeur. Dieu me montre. Tu seras. Qu'est-ce que c'est pour Dieu? Honnêtement, qu'est-ce que c'est pour Dieu? Qu'est-ce que c'est pour Dieu de te mettre dans une position élevée? Est-ce que vous savez que la position élevée n'est pas la destination? Mais la position élevée est le transit ou le moyen par lequel Dieu passe pour atteindre le but de ta destinée. C'est pour ça qu'on trouvera des présidents en enfer, des chefs d'entreprise en enfer, des députés en enfer, des ministres en enfer, des footballeurs de renommée en enfer. On trouvera des gens célèbres en enfer et même des pasteurs en enfer. Parce que ce n'est pas la fonction qui te donne l'élévation. Non, c'est pas la position qui te donne l'élévation. Non, tu n'es pas élevé parce que tu as une position. Tu es élevé parce que tu fonctionnes. C'est pour ça qu'il dit le plus grand parmi vous tous, qu'il soit le serviteur de tous. Non, ce n'est pas la position, mais c'est le service. Voilà le problème. Donc, vous voyez, on a très peu de personnes qui sont des brebis. Qu'est-ce que c'est une brebis? Il était semblable à une brebis comme elle à la boucherie. La brebis est docile. Elle se laisse conduire par Dieu, même dans les moments d'épreuve. C'est ça la brebis. La brebis est productive dans la société pour le royaume. C'est-à-dire une brebis, quand tu la mets quelque part, elle fait répandre l'odeur du royaume des cieux. Il y a des gens qui sortent de l'église, dès qu'ils sont sortis, il n'y a plus aucune marque de leur appartenance au royaume. Elles se fondent dans la masse et elles deviennent comme les autres. Bien-aimés, je suis une identité remarquable. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Pas moi en tant que tel, mais le royaume que je transporte. Il dit, le royaume de Dieu est parmi vous. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, il est parmi vous. Il dit, quand vous arrivez quelque part, on doit voir la lumière de Dieu qui se déplace avec vous. Vous êtes la lumière du monde. On ne peut ne pas remarquer ta présence. Pas à cause de tes chaînettes, ou à cause de ton sac, ou de tes trucs, ou bien de ton costume, mais à cause de la qualité de ton cœur. On doit remarquer ta présence. La docilité est une marque remarquable. Docile, productif, participe au salut des âmes, participe au salut. Quelqu'un qui est brebis parle de Dieu aux autres. D'accord? Sensible au Saint-Esprit. Fait un effort personnel pour marcher par l'Esprit. C'est-à-dire, c'est des personnes qui font l'exercice de la piété, qui sont dans la piété, qui prient, qui jeûnent, qui lisent leur Bible, qui appellent pour dire, pasteur, il y a tel verset de Bible, je n'ai pas compris, qui appellent le leader autour d'eux pour dire, ah, explique-moi ça dans la Bible. Ça, c'est la brebis. Vous voyez, la brebis, elle est concernée par les choses du royaume. D'accord? Assidue au culte, assiduité. D'accord? Participe à la vie communautaire. C'est-à-dire, cette personne, dans l'église, participe à la vie communautaire. Soit elle-même physiquement, soit avec ses ressources, participe à la vie. C'est-à-dire, la vie de Dieu, elle est préoccupée par la vie du royaume. C'est ça, la brebis. Et vous voyez, et ça, c'est important. Maintenant, bien-aimés, on a vu les deux caractéristiques généralement. Comment est-ce qu'on fait pour quitter de l'état de bouc à l'état de brebis? Vous savez, le bouc a une odeur forte, le bouc. Donc, il faut d'abord, premièrement, qu'on aide à extraire l'odeur personnelle, l'odeur de ce bouc, et que ce bouc devienne une brebis, et qu'on puisse tondre la barbe et réduire la puissance des cornes. Ça, c'est un travail progressif. Premièrement, pour que chaque personne qui, au départ, était un fidèle bouc devienne un fidèle brebis, cette personne doit premièrement appartenir à une assemblée locale. N'en déplaise, je suis peut-être un prédicateur très écouté sur Internet, mais je vais vous dire une chose, il n'y a pas d'église sur Internet. Il y a des messages sur Internet, mais il n'y a pas d'église sur Internet. Je reprends, il n'y a pas d'église sur Internet, il y a des messages sur Internet. L'église est physique. Les messages sur Internet, virtuels. Ayant l'impact, touchant les âmes, sauvant les âmes, mais ils doivent appartenir à une communauté locale. La démocratie ne change pas le fonctionnement du royaume des cieux. Dieu a bâti son église comme il a voulu et il veut son église comme il a bâti. Donc il faut qu'il y ait une église locale avec à la tête un pasteur. J'ai entendu des gens dire, oh frère, il n'y a plus de pasteur parmi nous. On est tous frères, d'accord, on est tous frères, mais il doit avoir un pasteur. Là où il n'y a pas de pasteur, c'est une organisation et une cellule démoniaque qui, vous voyez, qui fonctionne. Il faut un pasteur. Il faut un pasteur. C'est important. Vous voyez, les gens viennent égarer eux-mêmes pour des raisons que eux seuls savent, embrouiller le peuple de Dieu en disant, il n'y a plus de pasteur aujourd'hui. On se réunit, chacun dit ce qu'il a bien aimé. Pasteur a été établi par Dieu pour le perfectionnement du corps. Vous le voyez, c'est une onction qu'on a. Tu peux enseigner 10 fois mieux que moi, mais l'onction pastorale, c'est une onction. C'est une grâce pour mettre les gens ensemble et les donner de marcher selon le canevas de leur destinée. C'est une grâce. Et tous ceux qui sont appelés au sein de notre ministère ne sont pas pasteurs. Un prophète n'est pas un pasteur. Un apôtre n'est pas un pasteur. Un enseignant n'est pas un pasteur. Un évangéliste n'est pas un pasteur. Un pasteur, c'est un pasteur. Ce n'est pas parce que l'hyène va à la chasse et est achetée comme la panthère qu'elle est une panthère. Et il y a une spécificité. Un pasteur, c'est par appel de Dieu. Tu en appartiens à une bonne église locale. La chose la plus importante au départ, c'est choisir ton église. C'est pourquoi, dans ma prière pour vous, j'ai toujours demandé, Dieu révèle à chacun d'entre eux qu'ils aient la pleine conviction qu'ils sont à l'endroit où tu as voulu qu'ils soient. Et si ce n'est pas le cas, oh Dieu, conduis-les où ils doivent être. Je ne veux pas conduire un peuple de personnes qui se sont retrouvées accidentellement dans le trou. Il faut des personnes que Dieu m'a données, sur lesquelles je dois une responsabilité et qui lui appartiennent, bien sûr. Vous voyez, appartenir à l'église locale, c'est très important. On doit appartenir à l'église locale. D'accord? Et c'est très important parce que le temps passé à l'église locale est indispensable pour créer une révolution dans ta vie et permettre à Dieu de refaçonner ton histoire. Tu as besoin d'être présent à l'église. Hébreux 10, verset 25 dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Donc, je n'ai pas simplement dit d'appartenir, mais d'être assidu. Est-ce que ça va? D'être assidu. On peut avoir une maison et passer tout son temps à dormir à l'hôtel. Il y a des gens comme ça. Ou dormir ailleurs. Alors qu'on a une maison. Il dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Les quelques-uns à côté, c'est les boucs. Ils prennent le temps d'abandonner leur assemblée. Ils ne sont pas présents, ils ne sont pas assidus. Mais la Bible dit, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ça veut dire quoi? Maintenant que le jour du jugement arrive, nous devons nous exhorter. Frère, il faut que tu marches dans la droiture. L'exhortation est la responsabilité des frères et des sœurs entre eux. Je ne suis peut-être pas le prédicateur, mais je peux encourager un frère, je peux encourager une sœur. Le don d'exhortation existe, nous devons nous exhorter réciproquement. J'attends pas de vous que soyez des personnes médisantes, ni des personnes complaisantes, mais des personnes aimantes. Parce que ça permet à chacun d'entre vous d'encourager l'autre. Si tu vois un frère, si tu vois une sœur qui vit mal, reprends la personne. Ce n'est pas correct. Tu ne peux pas porter l'identité de frère et tu fais ça. La personne ne sera pas là pour voir. Mais Dieu est là pour voir et il fait voir par tes yeux. Si Dieu t'a fait voir, la responsabilité est tienne pour que ça s'arrange. Donc, pas les entacher. Encourageons-nous. Arrêtons le désordre. Vivons sainement. C'est notre rôle. On s'exhorte. D'accord? C'est très important. Dans l'église, il y a une saine atmosphère qui règne. Quand l'église est de Dieu. Une belle atmosphère. Quand tu baignes dans cette atmosphère, je te garantis que les problèmes que tu as avec l'enfer sont moindres. Vous devez comprendre ce que j'appelle l'onction corporative. Car la Bible dit, les deux frères de demeurer ensemble. Quand vous venez à l'église et que vous êtes dans cette atmosphère, il y a quelque chose qui se passe. L'église, ce n'est pas seulement le message, mais c'est tout. L'adoration, la louange, les cantiques devant Dieu, les offrandes. Ça fait partie d'un culte à notre roi. Indispensable à ton bonheur. Il faut y être assis. J'ai essayé de voir. On a 52 dimanches sur l'année. On a 52 mercredis sur l'année. Ça fait deux fois les réunions. Généralement, c'est les églises en généralement deux réunions. D'autres 3, 4, 5, 6. D'autres 7 réunions par semaine. D'accord? Selon le modèle que Dieu donne à chacun. Et donc, si vous venez à l'église deux fois par semaine, une fois par semaine, tous les dimanches, vous passez 52 heures. Par 52 heures fois 2, ça fait 104 heures que vous passez à l'église par an. 104. Si vous venez deux fois la semaine, ça fait 208 heures par an. Ça paraît beaucoup par an. Maintenant, Si vous voulez avoir le CEP, c'est-à-dire vous quittez la maternelle pour le CEP, vous allez vous rendre compte que vous passez, vous voyez, 6 heures par jour à l'école, dont 30 heures par semaine, 120 heures par mois, 960 heures par an. Donc, pour avoir le CEP, ça va te demander 5 760 heures. 5 760 heures. Et pour passer 5 760 heures à l'église, quand tu viens deux fois, il faut faire 27 ans et demi à l'assemblée. Pour avoir le CEP, si c'était le cas. Heureusement que Dieu nous fait grâce. Vous voyez? Vous voyez? Il nous faut 27 ans. Et vous voyez, c'est pour ça que Jésus l'avait compris. Ouais, Jésus prend les disciples. Il les prend avec lui. Regardez, il les prend avec lui. Il a fait combien de temps avec eux? 3 ans. Mais vous savez que Jésus a compris que s'il faisait comme nous, les gars n'allaient pas avoir d'impact. Il les a pris de jouer. C'était une école continue. Matin et soir. La nuit, on se réveille. 2 heures du matin, il y a cours. J'ai dit, en 2015, on aura des réunions de 4 à 6 heures. Alors, pour la formation des disciples, on n'a pas de temps. Le calendrier est chargé. Si on doit respecter, 4 heures du matin, on renoue tel groupe, on travaille ensemble jusqu'à 6 heures, vous allez à l'église, vous allez au travail. C'est, si on veut faire l'impact, on doit payer ce prix. Vous comprenez ce que je veux dire? Jésus était avec eux de la nuit au matin, le matin à la nuit. Ils avaient des écoles. Le test qui a fait que le Pierre, le leader, était en test vers 4 heures du matin. Ils étaient sur le lac. Jésus a dit, bon, maintenant je fais semblant de dormir, je vais voir comment ils vont réagir. Et là, je vais sélectionner mon leader. Ensuite, une autre épreuve, il se retrouve en train de marcher sur l'eau. Et il approche, il crie, ah, c'est un fantôme. Seul Pierre a dit, ordonne que je vienne. Ce jour-là, quand il est venu, il s'est détaché des autres. Et il a pris le leadership de l'église. C'était la nuit, quand tout le monde dort. Voyez les choses du royaume, on est là, on vient complet. Et puis même, voyez, nous devons comprendre. Mais quand je vois les 3 ans, et par jour ça fait... Combien d'années? 365 jours multipliés par 3. Multipliés par 24 heures. Vous voyez combien de temps il a passé avec ses disciples? Donc, et quand il a dit, maintenant, je vous établis, ça fait quand même beaucoup de temps passé avec eux. Vous comprenez? Beaucoup de temps. Si on veut voir des modules de formation, c'était intense. Il envoie des gars aller prier, revenez. Ils font des rapports, ils dorment ensemble, ils se déplacent, ils partent matin au soir. 3 ans et demi. Et puis il est parti. Donc, vous ne pouvez pas prétendre arriver à l'église, vous asseoir, écouter 2-3 messages et après vous dire je suis évangéliste. Et puis bon, quand vous avez un peu grandi, maintenant je suis devenu pasteur. Et puis j'ai vu, ah non, je suis prophète international, prophète des nations. Alors tu n'as jamais, même ton village, tu n'es jamais allé annoncer l'évangile. Vous voyez, on a des stupidités pareilles qui sont en fait des ministères de bouc. Le bouc aime la barbe et les cornes, et c'est pour ça qu'il va prendre tous les titres jusqu'à ce que les cornes deviennent de plus en plus longues. Appelez-moi frère, je n'ai aucun problème. Ça ne me dérange pas. On est frère d'abord. Au moins, j'ai la garantie qu'étant frère, je vais au ciel. Deuxième chose à faire, persévérer dans l'enseignement des apôtres. Persévérer dans l'enseignement. Persévérer dans l'enseignement. D'accord? Vous voyez, donc je ne vais pas simplement à l'église, mais je dois aimer persévérer dans l'enseignement. Acte 2, verset 42, il persévérait dans l'enseignement. D'accord? Dis à ton voisin, persévère dans l'enseignement. Vous voyez, on peut recevoir un enseignement sans persévérer dans l'enseignement. Persévérer dans l'enseignement, ce n'est pas recevoir l'enseignement. Vous recevez l'enseignement ce matin, mais très peu parmi vous vont persévérer dans cet enseignement. Persévérer veut dire, j'écoute la parole et je la mets en pratique. Jacques 1, verset 22, ne vous bornez pas à écouter la parole seulement, mais pratiquez-la, mettez-la en pratique. Oh, lève ta main droite, dis Seigneur, aide-moi. Je crois que j'ai besoin de mettre ta parole en pratique. Je veux mettre ta parole en pratique, Seigneur, dans ma vie de tous les jours. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a aucune clé autant puissante que celle de l'obéissance. Quand vous mettez la parole de Dieu en pratique, je vous garantis que les meilleures productions du pays vous sont réservées. Amen. C'est important de persévérer dans l'enseignement. Persévérer dans l'enseignement. D'accord? Donc c'est pour ça que quand vous venez à l'église, vous écoutez un message, ne prétendez pas que c'est assez. Et réécoutez la parole. Parce que une heure d'enseignement, ce n'est pas beaucoup. Réécoutez la parole. Et chaque message a une onction. Chaque message transmet des grâces. Donc je l'écoute jusqu'à ce que l'onction de la parole arrive à moi. Et que la grâce de ce message me soit donnée. C'est ça, persévérer dans l'enseignement. voyez? Parce que l'enseignement donne les clés qui nous permettent justement d'obéir à la parole. D'accord? Voyez, en tant que berger, j'ai compris ceci. Le berger est devant et les brebis sont ensemble derrière, n'est-ce pas? Il se donne, le berger de l'Orient est devant. C'est le berger de l'Occident qui est derrière. Le berger de l'Orient est devant. Et le berger de la Bible est celui qui se met devant et les brebis suivent. Mais quand les brebis marchent ensemble, de temps en temps, il y a des petites cornes telles que cognent-elles, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas parce que les cornes se sentent cognées que la brebis sort du troupeau. Ce sont des choses normales. Vous ne pouvez pas dans une église et puis ne pas avoir une friction avec tel ou tel frère ou telle soeur. Ça peut arriver. Mais ça ne change pas le fait que vous êtes du même troupeau. Et vous voyez que le pasteur, qui est le berger, n'a pas de relation sexuelle avec une brebis, dont la multiplication ne s'opère pas du pupitre vers le peuple, mais du peuple vers le peuple. Donc c'est le brebis entre elles qui s'accouple et qui se reproduisent. Donc il est important de comprendre que la dimension de la croissance dans le royaume dépend davantage des brebis que du berger. Le berger donne la nourriture, veille à la bonne santé, mais les brebis se reproduisent. Donc, si je suis une brebis, je me reproduis. D'accord? C'est très important. Et on doit traire le lait de moi. Le lait en question, la parole doit sortir de ma vie pour toucher d'autres personnes. Et donc, ça, c'est une vie d'obéissance. Ésaïe 11, 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, qui a de la bonne volonté dans la salle? Est-ce que je peux voir la main de ceux qui ont la bonne volonté? Tout dépend de quoi? Volonté, pourquoi? Pour Dieu. Et il dit, si vous êtes docile, alors laissez-moi vous donner cette parole qui est votre partage. Vous mangerez les meilleures productions de la Côte d'Ivoire, les meilleures productions de votre pays. C'est ce que la Bible dit, bien-aimé. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Oh, vous n'avez pas compris. C'est-à-dire que si on fabrique des voitures dans ton pays, tu rouleras les meilleures. Si on vend des voitures dans ton pays, tu auras les meilleures. Tu habiteras les belles maisons de ton pays. Pourquoi? Parce que les meilleures productions te sont réservées. C'est ce que la Bible dit. Alléluia! Rends grâce à Dieu de ce que les meilleures productions te sont accordées. C'est ton partage. Amen! Est-ce que quelqu'un comprend? Amen! Maintenant, suis-moi bien, suis attentivement. L'impact de ma vie dépend aussi, voyez, de la vie de mon leader. On va aller dans la prière. La prière. D'accord? La prière. Troisième point, la prière. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Il est recommandé de prier sans cesse. C'est ce que la Bible nous recommande. Priez sans cesse. D'accord? La prière est indispensable à notre épanouissement dans le royaume et à notre productivité sur la terre. Si je ne prie pas, je perds mon efficacité dans le royaume. Écoutez-moi très bien. Il faut prier. D'accord? La prière est importante. Vous ne pouvez pas dire, je vais être une brebis sans prier. La prière va vous aider. Alors, vous voyez, quand vous priez, c'est pas juste un rituel comme les hypocrites. Mais il dit, lorsque vous priez, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Et ton Père qui voit dans le secret, il te le rendra. Donc la prière, elle est intime. Elle est intime. Certains d'entre nous, quand on prie, on a nos quatre portables sur la table. On pose. Et on commence à parler, « Oh Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu es à la première place. » Et puis, brip, brip, brip. Le portable commence à sonner. On regarde. Et puis, la personne est là seule. Oh, oh, vraiment, c'est qui ça? La prière est coupée. Hein? C'est qui ça? Et puis maintenant, Anastasie. Hé, hey, Anna, comment tu vas? Hé, hey, Anna, je suis en train de prier. Anna dit, alléluia, tu pries. Amen. Vous voyez, dans la conversation, elle est déjà là. Elle dit, oui, je prie. Elle dit, ah, moi, je voulais t'affairer. Ah bon? Tu voulais m'affairer. Ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? Oh, est-ce que tu sais que... Et puis là, tout de suite, elle a, Seigneur, attends un peu. Je termine avec Anna. D'accord? Et après la prière... La personne revient dans la prière et commence à dire, Seigneur, on était où encore? Oui, alléluia, que ton nom soit élevé. D'accord, vous voyez? Et entre nous, est-ce que vous pouvez entrer dans le bureau de votre patron? Vous parlez avec votre patron, vous interrompez la conversation, vous répondez à votre maison et vous revenez avec votre patron? Non! Mais pourquoi donc vous pensez? D'accord. Et voyez, et avec Dieu, on le fait. On le fait. Voyez, la prière, au moment, ça dit, ce n'est pas, on n'a pas besoin d'avoir 5 heures de prière. Mais même 30 minutes, elles doivent être intenses. Un endroit à part où tu rencontres Dieu. Au moment de communion. Au moment où ton cœur rencontre le ciel. Ton cœur rencontre ton Créateur, ton Père. Beaucoup d'entre nous, c'est la récitation. J'écoute les gens prier. Et moi, souvent, ça me fait rire de douleur. C'est-à-dire, tu te dis, mais tu ne comprends pas. Les gens ont des phrases. Vous entendez les pasteurs prier même. Des phrases. De belles phrases. Souvent, il y a des belles rimes. Mais qui ne veulent rien dire du tout. Parce que ça ne vient pas du cœur. Ce n'est pas la qualité des phrases. Mais c'est la qualité du cœur qui parle à son Père. La sincérité quand je parle. Il connaît mes batailles, il connaît mes défis, il connaît les choses dans lesquelles j'ai mis ma main, les choses que j'aime, celles que je n'aime pas, il connaît tout et il attend que je vienne vers lui avec un cœur sincère. Vous pouvez tromper tout le monde sauf Dieu. Dans la prière, vous permet d'être sincère, d'avoir une communion avec votre Père, de passer le temps dans sa présence. Et c'est dans la prière que vous recevez la force pour mener la vie que vous menez. C'est dans la prière que vous êtes protégé. Certains d'entre vous êtes trop attaqués. Plus que la normale. 1, 2, 3, voilà un démon qui t'a attaqué. 1, 2, 3. Mais quel est le problème? Quel est cet enfant de Dieu qui est constamment submergé par le diable? C'est un problème. C'est parce que tu es refroidi. Vous n'allez jamais trouver des asticots sur un animal vivant. C'est la mort qui attire les asticots. Là où il y a les cadavres, les vautours s'assemblent. Il est possible que tu sois spirituellement mort. C'est pour ça que les vautours sont... Ils sont toujours à côté de toi. Parce quoi? Parce que tu n'es pas vivant. Un enfant de Dieu qui vit dans une relation avec Dieu, les vautours ne l'approchent pas. Il y a des choses qui n'arrivent pas constamment aux enfants de Dieu. D'accord, le malheur atteindra souvent le juste. D'accord, il y aura des persécutions. D'accord, le diable va nous attaquer. D'accord, mais écoutez-moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que le diable peut avoir le dessus sur la vie de quelqu'un qui a une relation parfaite avec Dieu. Est-ce que ça va? Dans la prière. Et dans la prière, il y a deux phases, la prière personnelle et la prière de groupe. Quand on est en assemblée, on est venu, on entend les prières. Moins de personnes, dans toutes les assemblées du monde, moins de personnes viennent. Pourquoi? On a un plus grand lot de boucs et très peu de brebis. Quand on dit qu'il faut prier, les boucs sont partis. Il n'y a pas de, on n'est pas dedans. Parce que nous, ça ne nous concerne pas. Hein, on va venir écouter un bon sermon et puis on va rentrer. Dans la prière, il y a des gens là à l'église, eux c'est pour eux. C'est eux qui peuvent prier. D'accord? Pourquoi? Parce que dans notre tête, on s'est dit, l'intercession c'est pour ceux qui n'ont pas de travail. L'intercession c'est pour ceux qui sont pétés dans la société. Non, ça n'a rien à voir. Chaque enfant de Dieu doit intercéder. Chaque enfant de Dieu. Quand on est prière, l'église se mobilise comme un seul homme pour se tenir devant Dieu et prier. D'accord? C'est important de comprendre. La prière c'est important. Certains d'entre vous, quelqu'un, même quand je ne veux pas, chez moi, quand je prie, vos noms viennent et je cite devant le trône de Dieu. Je parle sur vous. Je déclare des choses sur votre destinée. J'appelle vos noms individuellement. Je parle devant, souvent sur le visage. Et je ne me rappelle pas le nom, mais Dieu dit, parle, dit telle chose. Et je prie pour vous. La prière, c'est importante. Importante. Il faut prier. La prière te rend sensible au Saint-Esprit. La prière te permet de recevoir des instructions du ciel. La prière te donne la force et l'énergie pour mener une vie qui correspond à ce que la parole de Dieu dit. La prière te donne la capacité, justement, d'atteindre les résolutions que tu as prises. C'est dans la prière. Il faut prier. D'accord? C'est important. Il faut prier. Et quand on prie, on a la capacité de pardonner. Les gens qui ne prient pas ne pardonnent pas. Il faut apprendre à prier. Lève ta main droite et dis, Seigneur, j'ai vraiment besoin de prier. Enseigne-moi la prière. Je veux rester attaché à toi, Seigneur. Car je sais que mon esprit est disposé et que ma chair est faible. Aide-moi, oh Dieu. Alléluia. Ensuite, vous voyez, quand vous ressentez vous-même que vous avez besoin de prier et que souvent votre chair prend le dessus, appuyez le quatrième relais que j'appelle le relais du jeûne. Appuyez le jeûne. Quatrièmement, jeûnez. Il faut jeûner. Matthieu 6, verset 16, il est écrit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas en air triste comme les hypocrites qui se rendent tout le visage défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Voyez, lorsque vous jeûnez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque enfant de Dieu est appelé à jeûner. D'accord? C'est très important. Qu'est-ce que c'est le jeûne? C'est un moment où je me prive de nourriture, justement pour être agréable à Dieu. Ou alors pour justement attendre la manifestation de Dieu dans un domaine précis de ma vie. Donc je prends ce moment de jeûne pour que ma voix se fasse entendre là-haut. Donc je jeûne. Bien aimé, il y a une différence entre jeûner et se priver de nourriture. Si vous ne mangez pas de 6 heures à midi sans jeûner, il n'y a pas de problème. Mais je vous garantis, demain matin, dites je vais jeûner. Déclarez-la à 5 heures. Je vous garantis qu'à 6 heures, 10, vous aurez déjà faim et sérieusement faim. Pourquoi? Parce que votre chair sait que chaque fois que vous jeûnez, vous la muselez. Donc, elle va désirer la nourriture pour se rebeller. Donc, vous voyez, vous devez être ferme en disant, je dois jeûner. D'accord? Je dois jeûner. Chaque enfant de Dieu doit avoir au moins un jour de jeûne par semaine. Je dois jeûner. Un temps de jeûne individuel. Je dois jeûner. Je me rappelle un bon pasteur, un bon ami, un jeune que je connaissais. J'enseignais dans une église de bureau, une église d'une entreprise, où j'allais régulièrement enseigner vendredi. Et donc, il était là, mon frère, très bon frère. Et un jour, pendant que je suis en train de parler de la foi, de l'amour, la passion, l'engagement dans le royaume, il s'est senti poussé par l'esprit de venir me voir. Il m'a dit, pasteur, j'ai un sérieux problème. Et personne ne le sait. J'ai dit, lequel? Il me dit, j'ai un problème de masturbation. Je me masturbe encore jusqu'à aujourd'hui. Alors, quand je parlais avec lui, la première chose qui m'est venue à cœur, je lui ai dit, tu ne jeûnes pas assez. D'accord? Il m'a dit, oui, mais souvent je jeûne, mais après ce problème part, et après il revient, et après il part, et après il revient. Et beaucoup d'entre nous avons des problèmes où nous sommes toujours dans les histoires dedans ici. Le vrai problème, c'est que nous ne traitons pas cela dans le jeûne de consécration. Le jeûne de consécration est indispensable pour l'action de Dieu par nous et en nous. Il est important de prendre le jeûne de consécration. Où on va devant Dieu, pas pour avoir l'argent, on va devant Dieu pour avoir Dieu. Là, je vais devant Dieu pour dire, je vais être rempli de toi. Donc, je prends ce moment de jeûne uniquement parce que je veux connaître Dieu et être rempli de Dieu. La majorité de mes jeûnes personnels sont des jeûnes de consécration. J'ai rarement jeûné, si ce n'est simplement peut-être pour un besoin d'un membre de l'église ou quelqu'un dans la société. C'est rarement jeûné pour demander à Dieu quelque chose, c'est rare. La majorité de mes jeûnes, c'est Seigneur, je veux te connaître, aide-moi à vivre pour toi. Vous voyez, c'est des jeûnes de consécration. Vous consacrez à Dieu. D'accord? Ensuite, nous avons la communion fraternelle. Dis communion fraternelle. Encore communion fraternelle. La Bible dit persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. Donc, il est important de comprendre que nous sommes une famille et que l'assemblée locale est une famille. Donc, nous devons rester dans la communion fraternelle. Psaume 133, verset 1. Oh, qu'il est doux et agréable, frère, de demeurer ensemble. Verset 2, c'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. Verset 3, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Vous voyez? Donc, quand nous sommes ensemble dans la communion fraternelle, il y a l'onction de Dieu qui descend sur ta vie. Je déclare sur ta vie ce matin, oh, amen, que cette onction coule et se répand sur toi au nom puissant de Jésus. Amen. Quelqu'un dise encore amen. Amen. Que quelqu'un dise amen. Amen. Maintenant, suivez-moi bien. L'onction commence sur la tête, n'est-ce pas? Et se répand sur quoi? Sur quoi? Les vêtements, n'est-ce pas? La barbe, et ensuite? D'accord. Donc, l'onction commence sur la tête. On est d'accord? Maintenant, suivez-moi bien. Vous devez comprendre que quand vous êtes dans une église locale, la vie et l'onction de votre pasteur, la présence et la manifestation du Saint-Esprit au travers de sa vie a une influence dans ta vie. En fait, tu ressembles à la vie de ton pasteur. J'explique. Les messages que nous prêchons, ce sont des messages. Chaque message est un conteneur. Chaque message est un vase qui porte la vie. Et chaque fois qu'un homme de Dieu prêche, il sort ce qu'il est et il le communique par la parole. Donc, quand on vient s'abreuver à l'auge de l'autel pour boire à la parole qui sort d'un autel, notre vie dépend de ce que la parole la contient. Donc, si je prêche alors qu'à l'intérieur, j'ai un esprit, une mentalité de pauvreté. Je communique cela au travers de mes messages. C'est pour ça que quand Jacob faisait boire les brebis dans la jauge, les brebis ressemblaient à, exactement à ce qu'on trouvait dans l'eau. Donc la qualité de mes messages dépend de la qualité de ma vie. Si ma vie doit changer, les messages que j'écoute doivent changer. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc si tous les jours, je te prêche la condamnation, l'enfer, l'échec, la condamnation, la punition, le jugement, tous les jours, tu vas commencer à vivre dans la peur. Ça c'est clair. D'accord? Dans la peur. Donc il est important de comprendre que la communion fraternelle est très bonne. D'accord? Mais elle se fait sur les fondements de la vérité. Les fondements de la vérité. Dans la communion fraternelle. Ensuite, après la communion fraternelle, je dois apprendre, bien-aimé, à me donner au service de Dieu. Me donner au service de Dieu. Luc 17, 5 à 10, les apôtres disent, Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Bien-aimé. Seigneur, augmente-nous la foi. Qu'est-ce que les apôtres ont demandé? Répondez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Très bien. Regardez la réponse. Si vous aviez la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Ça veut dire que tu parleras aussi qu'aux morts. Tu parleras à la montagne. Tu dis, ôte-toi de là, plante-toi dans la mer. La montagne, elle va se planter dans la mer. Donc la foi est capable d'exploits exceptionnels. C'est ce que Jésus dit, n'est-ce pas? Mais regardez ce qu'il ajoute. Il dit, qui de vous ayant un serviteur qui laboure ou paie le troupeau, lui dira, quand il revient des champs, approche-toi, mets-toi à table, ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, sers-toi et sers-moi. Vous voyez, qu'est-ce qu'il dit? Que vous devez comprendre que le rôle du serviteur, c'est de servir son maître. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me comprenez? Le rôle, c'est de servir le maître. Ce n'est pas de s'installer à la table et de dire, le maître est là, Jésus est là, nous on mange ensemble. Non, non, le maître est là, mais nous, nous servons le maître. Nous apportons à manger au maître. On demande au maître quelle est sa volonté. Donc on est là pour servir le maître. On ne regarde plus notre identité parce qu'elle ne compte pas. C'est l'identité de notre maître. On est là pour faire sa volonté. C'est ça le service. D'accord? Donc, servir, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Servir. Est-ce que vous me comprenez? Il est important de servir. Servir. Dans la mentalité francophone, on pense que le service est pour les gens qui n'ont pas de travail. Alors que chez les anglophones, le service, mais c'est eux qui ont compris ce que c'est que le royaume. Servir, c'est servir. Vous comprenez ce que je veux dire? On doit servir. On doit apprendre à servir, c'est important. Servir, c'est se donner à Dieu. Être utile entre ses mains. Les gens vont de là, oh Dieu bénis-moi, oh Dieu fais de moi un grand homme, oh Dieu fais de moi une grande femme, oh Dieu donne-moi des affaires. Mais bien aimé, que Dieu fasse de toi la femme la plus riche de la terre, l'homme le plus riche de la terre, ce n'est pas le but de Dieu. Dieu n'a pas envie de faire de toi un milliardaire simplement. Il a envie de te donner 5 milliards pour atteindre son but. Ce n'est pas pour que tu dises, je suis riche, oh, je suis directeur, oh, je suis ministre. Non, ça c'est les cornes du bouc. Il te donne son trésor pour que tu agisses comme une brebis. Docile. Servir. Il y a des gens, même des femmes, vous êtes marié à une femme, servir son mari, c'est une difficulté. Le service, servir votre patron, faites-le de cœur. Servir, ça devient la chose la plus naturelle, la plus importante, la plus dynamique, la plus instantanée, avec le dévouement le plus total. Quand Dieu me dit de faire quelque chose, tout ce que je fais passe après. Je cours pour faire ce qu'il m'a demandé. Le service, je peux servir avec le mauvais cœur. Obéir n'est pas simplement faire ce qu'on a demandé, mais c'est le faire avec le bon cœur. Les gens sont trop remplis d'eux. Regardez comment vous donnez des ordres à vos maisons. Hé, hey, toi là, dépêche-toi ici. Non. Non. Parce que quand vous-même vous avez appris à servir, vous avez du respect pour les serviteurs. Les gens qui ne savent pas servir, c'est eux qui maltraitent les serviteurs. Mais quand vous savez servir, vous respectez le service. Les gens qui servent. Vous comprenez ce que je veux dire? Un jour, j'ai reçu des gens chez moi, et puis je me levais, moi-même je prends naturellement, parce qu'il y a plein de place sur la table. On a un service, il faut débarrasser. Je ne me gêne pas de récupérer, aller déposer à la cuisine. Et, oh mais non, pasteur, tu ne peux pas faire ça. Mais pourquoi? Je suis un serviteur. Ça ne change rien à ce que je suis. Rien du tout. Rien du tout. Je perds la conscience du moi pour être conscient du fait que je dois rendre un ministère aux autres. C'est tout. Maintenant, si tu penses que, parce que tu étais chez moi, oh le révérend, moi, mais quand j'ai, c'est lui-même qui a pris mon plat pour aller déposer. Ça, c'est le bouc qui pense comme ça. Moi, c'est lui-même. Lui-même a pris mon plat. Moi, je ne suis pas n'importe quel pasteur. Tu vois, le révérend Wafo, c'est lui-même. Il a pris mon plat. Bon, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui réagissent comme ça. D'accord? Parce que pour eux, celui qui prend le plat est plus petit. La Bible dit, celui qui est le plus grand parmi tous, qui soit le serviteur de tous. Alléluia! Amen! Ça ne change rien. Imaginons au moment que les gens viennent ici et puis on trouve à la porte, c'est un notaire. On trouve de l'autre côté, c'est un directeur de société. On trouve de l'autre côté, c'est le directeur de cabinet. Quand tu arrives à l'église, c'est eux qui t'accueillent. Tu trouves là, on dit celui qui est au panier, c'est un ministre. Bien aimé, vous pensez que l'évangile ne va pas aller à une autre vitesse? On dit au panier le dimanche, celui qui porte le panier, on dit c'est le 10 cap de telle boîte. Ah, tu connais ce gars, c'est un milliardaire. Oh, la femme qui est de l'autre côté, qui est là, c'est quoi? Oui, mais c'est ça l'église. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Si on veut toucher les gens, on doit montrer l'exemple. C'est pour ça que moi-même, je viens le matin, avant tout le monde, je viens à l'église, le premier, pour être là. Je cours parce que je veux servir. J'ai appris à servir. Je ne suis pas entré dans le ministère par la fenêtre. Non, il y a des gens qui sont devenus évêques, archevêques, papes. Ils n'ont jamais servi. Nous autres, on a balayé l'église, nettoyé les toilettes. Avant le matin, avant tout le monde, venir nettoyer les toilettes. Et puis maintenant, aller s'habiller dans un coin et être à l'église. Sortir après, nettoyer les toilettes avant de rentrer. Ça n'a rien changé. C'est, au contraire, la foi a augmenté parce que je me suis rendu compte que les meilleures révélations que j'ai eues dans ma vie, c'est quand j'étais en train de travailler pour Dieu. J'ai nettoyé les assiettes dans ma maison. Ciré le sol. Repassé les habits de ma mère. Ciré ses chaussures quand j'étais né de nouveau. Parce que la chose première que Dieu m'a enseignée, c'est le service. J'ai appris à servir. Quand je rencontre les gens, je pense à une chose, les servir. Chaque fois que je pensais à autre chose, j'étais déçu. Je n'avais pas du service. Le service, c'est ce qu'il y a d'extraordinaire. Donc, quand on est dans une communauté, on doit appartenir à un groupe, à un ministère de l'Église. Soit les femmes se réunissent, on est là. Il y a des femmes qui estiment que, oh non, le groupe des femmes, j'aime pas la tête de ces femmes-là. Tcho, j'aime pas la tête de ces femmes. J'ai entendu un autre gars me dire, parce que je vais te dire, quand je regarde ces femmes d'église, je vois vraiment pas une qui me ressemble. Ah, vous voyez, non? Vous voyez comment les femmes ont crié? Ah, d'accord? Mais est-ce que vous savez que l'inverse est souvent plus fréquent? Oh, pasteur, tu sais, je veux bien me marier, mais vraiment, tes fils-là, quand je regarde ce que je vois, il y a qui me met à mon niveau. Et c'est clair, ton niveau est tellement... Nous sommes dans le royaume, donc si tu as posé un peu de l'autre côté, c'est normal que ce ne soit pas du même niveau. Tu as un niveau tellement bas que mes fils ne peuvent pas avoir une femme comme toi. Et ton niveau est trop bas, parce que ceux qui sont dans le royaume sont au niveau élevé. Ah, mais un standard très élevé, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est très important. Non, j'aime pas la tête de telle. Oh non, vraiment cette femme, je ne la supporte pas. Comment tu es enfant de Dieu et tu réfléchis comme ça? Tu n'as aucun département. Évangélisation, non. Prière, intercession, non. Aucun. Aucun, aucun, aucun. Femmes se réunissent, non. Les hommes, non. Peut-être que dans ta tête, tu n'y... Rien du tout. T'es partout, tu n'es pas. Et ce sont ces gens qui se plaignent. Non, j'étais ici. Pourquoi je suis assis là? Pourquoi on ne m'a pas mis là? Pourquoi je ne suis pas ici? Pourquoi je ne suis pas là-bas? C'est un problème. Nous devons apprendre à changer notre mentalité. Dis à ton voisin là, j'ai l'impression que c'est à cause de toi qu'il parle comme ça pour le service. Vous voyez? Il faut servir. C'est très important. Le service nous donne justement de jouir la grâce de Dieu. Et Jésus a dit dans Jean 12, verset 26, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Là où je suis, là aussi mon serviteur sera. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Quand vous servez Dieu, vous êtes honoré. Vous ne pouvez pas le servir et être déshonoré. Je déclare sur ta vie que l'honneur est collé à ton vêtement au nom puissant de Jésus. Le vêtement de la honte ne sera pas ton partage. Accorde du service dans le royaume au nom puissant de Jésus. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Tu ne peux pas servir Dieu et être déshonoré. Impossible. Dieu honore ceux qui le servent. Et le dernier point, d'accord, a servi Dieu avec ses offrandes. Avec ses offrandes. Vous voyez, l'église a besoin d'ouvriers. Dieu dit, priez le maître de la moisson. Qui suit ses ouvriers dans le champ de moisson, mais on peut ouvrir de différentes manières. D'accord, on peut œuvrer dans le royaume avec ses finances, dont mes dons et mes semences sont indispensables pour la promotion du royaume. La vraie adoration s'exprime au travers de nos dons, de nos offrandes, de nos sacrifices à l'Éternel. Un pasteur qui n'enseigne pas à son peuple à donner à Dieu est en train de maudire la destinée financière de ce peuple. Il n'y a pas d'épanouissement dans le royaume sans sacrifice. C'est le pilier central sur lequel le royaume de Dieu se tient, le sacrifice. Donner. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a donné ce que tu as. N'oublie jamais que Abraham, notre père, n'a pas été appelé père par la foi à cause des grosses bénédictions qu'il a reçues, mais plutôt du grand sacrifice qu'il a donné. Donc notre sacrifice détermine notre rayonnement dans le royaume. Je prêche ce que je vis. Ce que je vous dis, c'est ce que je fais. Vous ne pouvez pas imaginer ce que le sacrifice est capable d'apporter comme bonheur. Vous n'allez pas vivre dans une dimension de visitation si vous ne savez pas sacrifier. Le sacrifice attire la puissance de Dieu. Ouvre le ciel de Dieu sur votre vie. Vous accorde des faveurs indescriptibles. Le sacrifice. Avant que cette année 2015 commence, j'ai déjà commencé mes prières du 11e mois et déjà de janvier jusqu'à en juin, j'ai déjà des pré-contrats signés. Pourquoi? La faveur de Dieu, bien-aimé. La faveur de Dieu. C'est très important, bien-aimé. Vous devez apprendre, n'est-ce pas, à servir Dieu avec vos revenus. Quand je gagne, quel que soit ce que j'ai, que ce soit une offrande, que ce soit un argent gagné dans une transaction d'affaires, l'Éternel est honoré avec mes gains. D'ailleurs, c'est un pacte entre nous deux. Il est actionnaire majoritaire dans mon entreprise. Il est à la première place. Et c'est pour ça que je ne serai jamais pauvre. Même s'il y a un seul homme sur la terre qui est riche, je serai cette personne. Je ne sais pas en ce qui te concerne. Tu es sûr que ce sera toi seul? Dans ce cas, on sera deux. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous savez que vous devez honorer Dieu avec ce que vous avez? Je termine en disant ceci, Hébreux 13, verset 16, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité qui se casse à l'éternel sacrifice que l'Éternel prend plaisir. Genèse 8, verset 22, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Malachie 3, verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. C'est parce que la Bible dit, mettez-moi à l'épreuve. Acte 20, verset 35, je vous ai montré de toutes sortes de manières, ce que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappelant la parole du Seigneur qui dit lui-même, il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Lève ta main droite vers le ciel, dis Seigneur, donne-moi de connaître ce plaisir, le plaisir de donner, le plaisir de m'investir, le plaisir de sacrifier par mes offrandes volontaires, par les dîmes et les offrandes, par mon temps que je donne. Oui, Éternel, donne-moi de découvrir le mystère de ce plaisir. Je suis dans le royaume pour servir les intérêts du royaume. Je refuse d'être identifié parmi les boucs, car je suis une brebis. Je suis le berger. Je suis le berger. Je dégage ma vie d'une odeur personnelle, l'odeur du moi. Je dénonce cette odeur. J'ai dit non, que l'odeur de Christ, cette belle odeur, soit celle que j'ai. Oh Dieu, taille ma barbe. Taille ma barbe, réduis la puissance de mes cornes. Donne-moi d'être obéissant, afin, oh Dieu, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donne-moi l'humilité d'une brebis, l'humilité, Seigneur. Conduis-moi sur ton chemin, au nom puissant de Jésus. Et que quelqu'un dise, Amen trois fois, Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse richement.